Il est 8h41.
France Inter. Le 7-9. Intervenez.
Vous intervenez au 01 45 24 7000. Philippe, au standard d'Inter. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Hamon.
Bonjour Monsieur.
Voilà, je voulais vous dire donc que j'ai voté pour vous dimanche, ainsi que mon fils qui a eu 18 ans dimanche. Donc nous avons tous les deux voté pour vous. Mon fils a quand même regardé les débats. Moi non, j'avais pas besoin de regarder le débat parce que je vous trouve très sincère. Lui aussi vous trouve très sincère et certainement plus proche de nous.
Merci
contre,
beaucoup.
J'ai un petit dilemme, c'est que si vous passez donc pour les présidentielles. Je suis d'extrême gauche. Je vote en général extrême gauche. Il y aura peut-être Monsieur Mélenchon, même sûrement.
Oui.
Et je ne saurais vraiment pas pour qui voter. Ou lui, ou vous. Alors qu'est-ce qui pourrait me faire voter plus pour vous que lui? Ou alors vous mettez d'accord tous les deux.
Voilà, merci.
Ça serait évidemment le mieux.
Merci Philippe pour cet appel. Benoît Hamon.
Écoutez, c'est une bonne question. Mais
bah vous jouez une voix là, hein, ou deux voix même.
Mais je sais qu'il y a beaucoup d'électeurs qui, comme monsieur, se posent cette question. Je crois, j'ai senti beaucoup d'incertitude à gauche. On en parlait tout à l'heure sur le fait qu'on a le sentiment que tout est un peu friable. Je regarde Bernard Guetta et je pense à cette définition de la crise qu'il doit connaître comme moi, d'Antonio Gramsci, qui dit que la crise c'est quand le vieux est mort et le neuf ne peut pas naître. Et nous sommes dans un moment comme celui-là. Et il a rajouté, de ce clair-obscur peut naître un monstre. Ouais. En gros, en clair, l'extrême droite à l'époque, il annonçait quelque part le fascisme italien, et on voit bien qu'aujourd'hui, un peu partout dans les sociétés occidentales, nous sommes confrontés nous sommes dans ce moment-là, et qui est un moment d'incertitude, et où il nous revient la responsabilité de projeter un avenir qui ne soit pas juste mu ou travaillé par des angoisses, la crainte de l'autre, l'exclusion, mais par une perspective qui soit une perspective un peu plus solaire, un peu plus positive.
C'est très beau, mais on est assez loin du dilemme de Hamon.
Mais j'insiste là-dessus, sur le fait que moi je considère aujourd'hui que si on caractérise plus précisément cette crise, il y a la crise du travail. Je crois moi aujourd'hui qu'il faut penser un partage du travail qui tienne compte de la révolution numérique et des destructions d'emplois qu'elle produira, qu'il faut penser urgemment la conversion écologique de notre économie. L'un va avec l'autre, ça tombe bien, puisque la réduction du temps de travail, la rupture avec un modèle productiviste, consumériste, nous permettra d'engager les investissements nécessaires pour faire en sorte que demain, nos façons de produire, nos façons de consommer, de manger, de nous alimenter, ne soient pas nuisibles à notre cadre de vie et à notre santé. C'est le projet politique que je porte. Il est, je l'assume, un projet de long terme. Ce qui me vaut d'être qualifié d'utopiste. Il n'y a rien d'utopiste à ça. Il serait même tout à fait déraisonnable de ne pas voir aujourd'hui qu'il y a une urgence à changer de mode de production et de mode de consommation. Je le dis tout simplement parce que, pour reprendre une chose que j'ai dite pendant cette campagne, si l'obstacle, c'est le niveau de la dette, pardon, mais la dette, ce sont des marchés, ce sont des banquiers, on peut négocier avec eux. La planète, on ne négociera pas. Et aujourd'hui, retarder les moment d'investir en Europe, en France, avec les pays émergents, la conversion de notre modèle de développement, retarder cela, c'est prendre des risques qui sont des risques considérables et que moi je ne veux pas prendre. Et pour être d'un dernier mot, quel est le moteur de ma candidature? Je vais vous dire, ce sont mes filles. Je considère aujourd'hui que j'ai la chance de pouvoir peser dans le débat politique pour faire en sorte que je ne leur laisse pas, comme la plupart des parents, un monde invivable. Et j'ai l'impression aujourd'hui que nous en prenons pourtant le chemin si nous ne faisons pas ces choix-là. Et un monde invivable dans l'entreprise, dans le travail, dans l'organisation du travail, comme dans ce que nous allons leur laisser de cadre de vie.
Tout cela forme un projet, une vision suffisamment différent de celui de Jean-Luc Mélenchon pour ne pas avoir envie de se rallier à lui.
J'ai une différence avec Jean-Luc Mélenchon. Elle est claire, tout le monde la connaît, c'est l'Europe. Moi, j'assume le destin européen et méditerranéen de la France. J'assume le fait qu'il faut construire des coopérations et que l'instabilité, la double instabilité créée par les prétentions de Poutine sur notre frontière orientale, le choix de Donald Trump de manifestement passer au-dessus de l'Europe et de vouloir aujourd'hui affaiblir l'Union européenne, tout ça crée les conditions d'un resserrement des Européens et probablement une nouvelle étape en termes d'intégration européenne que moi je vois dans deux domaines. Un, il faut reprendre la proposition de Jacques Delors d'un traité de l'énergie. C'est la bonne manière d'organiser la conversion de notre modèle économique. C'est valable pour les Polonais qui préféreraient des énergies renouvelables à des centrales au charbon. C'est valable pour nous qui devons diminuer notre parc nucléaire. Il faut reprendre cette proposition-là parce que c'est la bonne inspiration. Et d'autre part, sur les questions de sécurité, nous disposons d'un outil de défense complet. Nous sommes les seuls dans l'Union européenne, et de surcroît les seuls à être membres du Conseil de sécurité depuis le départ des Britanniques. C'est un axe autour desquels je pense que les Allemands sont prêts à nouveau à discuter, et de la défense continentale, et de la protection contre les menaces extérieures.
Vous avez parlé de la dette il y a deux minutes, Benoît Hamon, vous pensez toujours qu'elle est illégitime et qu'il ne faut pas la payer, ce que vous écriviez dans votre livre en 2011.
Oui, absolument. Je pense qu'aujourd'hui, cette question de la dette est une question importante et qu'il faut en finir avec cette pression qui pèse sur les États européens. Je propose deux choses. Je propose que d'abord nous soyons caution mutuelle dans les faits aujourd'hui et que nous mutualisions la dette européenne à venir, c'est-à-dire que nous permettions, mais c'est pas très original, la plupart des responsables politiques penchent vers cela, et que nous soyons en situation d'alléger le poids de la dette pour les pays les plus endettés qui ne la rembourseront de toute façon pas, et que nous puissions demain regarder le développement qui est celui de l'Europe à partir d'une dette mutualisée et des taux qui soient des taux de facto harmonisés. Il me semble que ce serait la bonne voie, c'est celle que je défendrais.
On a perdu une auditrice à l'instant, c'est celle que j'allais prendre à l'antenne, on l'a perdue ? Elle n'est plus là. Alors, c'était Mireille qui vous demandait, Benoît Hamon, à l'instant, quelle était votre conception de la laïcité et du communautarisme en banlieue ? C'est une critique, c'est une question qui revient beaucoup dans les messages d'auditeurs, et puis aussi, on l'a entendu chez les partisans de votre adversaire Manuel Valls depuis hier soir.
Oui. Écoutez, moi je suis totalement intransigeant avec le communautarisme quand il vise notamment à remettre en cause l'égalité entre les femmes et les hommes. Qu'il s'agisse des cafés de Sevran dont on a parlé, de la manière dont aujourd'hui on peut vouloir faire peser sur la femme une forme de culpabilité d'être femme, au point qu'elle s'efface, se cache, se dissimule, cela est insupportable.
Sur les cafés de Sevran, vous l'aviez relativisé la première fois que vous en avez parlé.
J'ai dit, c'est une maladresse. J'avais mis les choses dans le mauvais ordre et je le regrette si, en tout cas, ça avait pu être interprété comme cela. Parce que la réalité, c'est que moi, j'y fais face à cela et à, ces,
vous,
à
ce qui peut être député à tous, Trappe tous dans
ceux,
les Yvelines.
Pas que, mais à tous ceux qui veulent tester la République. Cela étant dit, je répète, le cadre de la laïcité, ce sont deux articles de la loi de 1905. Et la laïcité n'a jamais été pensée comme un glaive contre une religion en particulier. Et que la force de la loi de 1905, c'était de mettre aux deux pôles, d'une part, celles et ceux qui voulaient que la loi religieuse pèse encore sur la loi des hommes, et d'autre part, ceux qui voulaient faire de la laïcité un instrument pour abattre les religions. C'est la coexistence des deux. La loi de 1905, c'est une loi de liberté, je le rappelle, et il faut en rester là. Ce cadre-là me paraît toujours valable. Ce que je n'accepte pas aujourd'hui, c'est que derrière ce mot communautarisme, quand c'est le choix de vie de ceux qui décident de vivre entre soi, et je le regrette, il y ait finalement au bout une volonté de dire que l'islam est incompatible avec la République. Ça n'est pas vrai. C'est insupportable aujourd'hui qu'on continue à faire de la foi de millions de nos compatriotes un problème dans la société française. Que l'on fasse de l'islam révolutionnaire politique, un adversaire de la République, il faut le combattre, il faut lutter pour déradicaliser un certain nombre de jeunes, pour prévenir la radicalisation, oui, mais arrêtons de faire aujourd'hui de l'islam un problème dans la République. J'espère, et je vais vous dire, je crois que c'est un acquis de cette campagne des primaires. On a parlé un peu plus dans les repas le dimanche, à la pause dans les cours de fac, à la pause dans les entreprises, de revenus universels, de solidarité, de questions écologiques, et un peu moins de burkini. Réjouissons-nous du fait que cet agenda ait changé. Voilà.
Juliette nous appelle de Bretagne. Bonjour Juliette.
Oui, bonjour France Inter. Bonjour. Monsieur Hamon.
Bonjour. Nous vous écoutons.
Voilà, je suis professeur des écoles. Je peux vous appeler ce matin puisque je suis arrêtée pour burn-out. Donc je souhaite vous interpeller surtout au niveau de la souffrance vécue par ce métier. On parle souvent des professeurs en général, mais très rarement des professeurs des écoles qui sont vraiment les parents pauvres de ce métier. Donc je dénonce mes 55 heures de travail par semaine, 24 heures devant les élèves pour un salaire de 2 200 € en moyenne. Si je compare par rapport aux professeurs des collèges, eux, ont 500 € de plus et sont 18 heures devant les élèves. Donc la charge de travail est insurmontable. C'est tous les jours non-stop, 7 jours sur 7, notamment depuis les 4 jours et demi qui ont fait empirer encore davantage cette fatigue qui déteint également sur notre vie de famille, puisqu'on travaille du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, monsieur Hamon. Je rappelle, je vous apprends que j'ai voté pour vous hier, que je crois en votre espérance, mais je souhaiterais pour mes choix futurs que vous vous positionniez à ce niveau-là. Merci.
Merci à vous, Juliette. Benoît Hamon.
Je distingue deux questions, à la fois celle de la souffrance au travail, qui ne concerne évidemment pas que les professeurs des écoles ou les enseignants, mais beaucoup de professions, et j'ai une pensée particulière pour les hôpitaux, où aujourd'hui à la fois les personnels paramédicaux, infirmières, aides-soignantes, mais aussi les personnels administratifs sont confrontés à raison de l'organisation du travail à des difficultés telles qu'aujourd'hui on voit, ou en tout cas grandit la souffrance au travail, mais c'est valable dans des entreprises, c'est valable dans beaucoup de secteurs, et c'est la raison pour laquelle madame disait qu'elle est arrêtée pour burn-out. En réalité, en France, on n'arrête personne pour burn-out, puisque le burn-out n'est pas reconnu comme maladie professionnelle, et que ce syndrome d'épuisement professionnel fait basculer des personnes en dépression, en anxiété généralisée, et qu'il faudra, c'est une d'ailleurs proposition que j'ai faite, que ce syndrome d'épuisement professionnel puisse être reconnu comme maladie professionnelle. Il y a pour cela deux voies. J'ai beaucoup insisté sur le fait que il faudrait en tout cas faciliter ce qu'était l'accès à la voie complémentaire, c'est-à-dire qu'on puisse voir son dossier instruit, pris en charge par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, et enfin voir cette maladie reconnue. C'est important, hein, parce que cela poussera les entreprises, dès lors qu'elles seraient mises à contribution à raison du nombre de burn-out dans leurs effectifs, cela les poussera à changer leur organisation du travail, comme dans le passé avec les accidents du travail, on a poussé des entreprises du bâtiment à faire les investissements en matière de sécurité pour les gens qui étaient sur les chantiers. Donc ça, c'est une priorité. Puis après, il y a l'école. L'école, comment en résumer en deux minutes? Il y a un effort qui est demandé aux professeurs des écoles. Je salue la décision qui a été prise par Najat Vallaud-Belkacem de porter l'indemnité qui s'appelle l'ISAE à 1 200 euros, là où elle était à 400 euros auparavant. Bref, de l'aligner sur les professeurs du second degré. Mais évidemment, on voit bien qu'en matière de revalorisation des carrières, de conditions de travail, il faut permettre aux enseignants de respirer davantage. Ils ont le sentiment d'avoir des injonctions permanentes, verticales souvent. Ils ont besoin de liberté pédagogique, ils ont besoin de pouvoir se concentrer sur ce qu'ils savent le mieux faire, c'est-à-dire assurer le suivi de leurs élèves. Un des engagements que je prends, et je veux le dire à cette dame, c'est que je souhaite que dans ce qu'on appelle le cycle 2, CP, CE1, CE2, il n'y ait pas plus de 25 élèves, non pas en moyenne, parce qu'aujourd'hui ils sont à 23, mais en valeur absolue. Dès lors, et pas plus de 25 élèves, de façon à ce que les conditions dans lesquelles on enseigne permettent aussi le suivi individualisé d'un certain nombre d'enfants qui ont plus de difficultés. Et pour les zones d'éducation prioritaire, les zones de REP, l'outre-mer et les zones rurales défavorisées, qu'on ne dépasse pas les 20 élèves par classe sur ce cycle-là. On sait qu'il y a un lien direct entre le nombre d'élèves par classe et une scolarité plus compliquée pour des élèves déjà en difficulté ou d'origine parfois sociale modeste et qui rencontrent plus de difficultés que d'autres.
À propos d'école, de laïcité, de discrimination sexuelle, laïcité dont on parlait il y a quelques minutes, pourquoi lors du dernier débat de la primaire, avant le premier tour, vous êtes-vous vanté d'avoir promu les ABCD de l'égalité alors que comme ministre vous les avez stoppés à l'été 2014?
Vous vous trompez, monsieur Cohen. Mais vous vous trompez, je n'ai pas dit que j'avais... ce n'est pas ça que j'ai dit, je vais préciser, ce que j'ai dit. La fin de l'expérimentation des ABCD de l'égalité était sous... quand j'étais ministre de l'éducation, et nous avons eu une évaluation par l'inspection générale, d'ailleurs Vincent Payon connaît ça parfaitement, et nous avons décidé avec Najat Vallaud-Belkacem, à partir de cette expérimentation, de faire quoi? La question c'était, poursuit-on une expérimentation, c'est-à-dire des quelques collèges qui vivraient une expérimentation avec des modules, ou généralise-t-on, et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous avons décidé? De mettre en place un module obligatoire à l'égalité femmes-hommes en formation initiale dans toutes les écoles du professorat de France. Mettre en place des ressources pédagogiques disponibles pour tous les enseignants sur l'égalité femmes-hommes. Pour laquelle raison? Pour être en situation de pouvoir disposer de ressources justement au moment où des jeunes, un jeune, un garçon décident d'avoir des comportements qui sont des comportements inappropriés ou manifestent une volonté, eh bien, de contester le principe de l'égalité femmes-hommes. Voilà ce que nous avons fait. Aujourd'hui, dans toutes les écoles du professorat, avec Najat Vallaud-Belkacem avant qu'elle soit à l'éducation nationale, nous avons mis en place ce plan. Oui, les ABCD s'étaient arrêtés parce que c'était une expérimentation. Il nous revenait d'en tirer les conséquences. Et à partir d'une évaluation, de l'inspection générale, nous avons pris le meilleur et nous avons fait en sorte de mettre en place ces modules.
Si vous gagnez...
Donc j'assume.
D'accord. Si vous gagnez dimanche prochain, Benoît Hamon, vous ferez une place à Manuel Valls pour votre campagne présidentielle.
Écoutez, ça dépendra de l'état d'esprit qui sera le sien, mais en tout cas, moi, mon objectif, il est de rassembler la gauche, et je me mettrai en situation de la rassembler.
Et si Manuel Valls gagne, vous imaginez soutenir le vainqueur ?
Je ne pense pas qu'il me demandera d'être son porte-parole, mais j'ai dit que j'acceptais les règles de la primaire depuis que j'y suis candidat.
Donc vous le soutiendrez, vous ferez campagne pour lui ?
En tout cas, je ne contesterai pas sa victoire, je m'inscrirai dans ce que sera le futur scénario de la gauche.
Christophe nous appelle du Mans au Standard Inter. Bonjour Christophe.
Ah oui, bonjour Monsieur Cohen, Monsieur Hamon, bonjour.
Bonjour Monsieur.
Je suis chef d'entreprise, j'ai voté François Hollande il y a 5 ans. Et je comprends, mais j'aimerais bien poser la même question à Monsieur Valls. J'ai très observé votre discours hier soir. Je trouve parfaitement irresponsable de proposer et de faire croire à des gens qui vont pouvoir négocier avec leur employeur la baisse de leur contrat de travail et compenser cette baisse de rémunération par le revenu universel. En tant que chef d'entreprise, je pense que faire cette déclaration est très dangereuse parce que lorsque vous êtes à la limite des seuils des institutions représentatives du personnel, vous basculez, vous pouvez changer de modèle économique et vous pouvez, en tant que chef d'entreprise, prisonnier d'infrastructures comme CHSCT, CE, délégué du personnel. Je pense que, en tant que personnel, vous devriez proposer de moduler le temps de travail sur le début de carrière, de pouvoir faire 39 heures et donc d'augmenter les cotisations sociales et de permettre aux gens, à partir de 50 ans, de baisser leur temps de travail. Voilà une proposition que la gauche ne propose jamais. Donc pourquoi M. Hamon et pourquoi M. Valls ne proposez-vous pas de déplafonner les heures des 35 heures de travail pour permettre cette modulation?
Alors Manuel Valls, ce sera mercredi, mais Benoît Hamon va vous répondre tout de suite. Benoît Hamon.
Mais parce que je ne pense pas que ce soit une bonne chose.
Bon, bah voilà.
Je pense qu'aujourd'hui, dire on met le paquet, on fait travailler beaucoup les jeunes, aujourd'hui ce n'est pas ce qu'ils souhaitent. Parce que quand on s'installe, quand on construit une famille, on n'a pas envie de travailler forcément 40, 50 heures, comme j'entends dire que d'autres voudraient le faire. C'est ignorer aujourd'hui ce que sont les difficultés de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et des jeunes actifs que de vouloir cela. Ce que je propose, et je veux insister là-dessus, c'est que en parallèle avec le revenu universel, il y ait un nouveau partage du travail qui se fonde sur un deal simple, baisse significative des cotisations sociales patronales en contrepartie d'une réduction du temps de travail et de création d'emplois. Et moi, je mettrai en œuvre ce programme, il est indissociable aussi du revenu universel, mais il me semble que aujourd'hui vouloir mettre la charge sur les nouvelles générations en disant « bon bah écoutez, ils ont l'énergie, ils peuvent travailler plus ». Effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui veulent travailler plus et qui veulent s'engager, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui veulent pouvoir articuler une vie professionnelle normale dans laquelle ils s'épanouissent et une vie personnelle dans laquelle ils s'épanouissent aussi. Regardez les choix des jeunes médecins. C'est très caractéristique de ça. Ils veulent aujourd'hui pouvoir articuler vie personnelle et vie professionnelle, que l'on s'en inspire et qu'on regarde le monde tel qu'il est et tel que les nouvelles générations le demandent et pas tel qu'il fut et tel que quelques catégories le souhaitent.
Une toute dernière séquence de l'émission avec vous, Benoît Hamon. Ce sera dans 30 secondes la question d'Augustin Trapenard. Bonjour Augustin Trapenard.
Salut Patrick.
J'ai une question pour
oui,
Benoît.
Oui, bonjour Benoît Hamon. Il m'a pas échappé quand même sur les photos.
Bonjour,
on a pu voir de votre bureau, à côté d'un grand box, ce poster de Mohamed Ali et les mots float like a butterfly, sting like a bee. La légèreté du papillon, la précision de l'abeille quand elle pique, ça vaut aussi, je suppose, pour la politique. Qu'est-ce que vous avez de l'abeille, du papillon et surtout jusqu'à quel point est-ce que vous allez boxer, Benoît Hamon?
Oui, j'aime beaucoup. D'abord, je pense que Mohamed Ali, c'est pour moi le champion absolu, parce qu'il est à la fois un sportif exceptionnel et en plus un politique incroyable. Qu'à une époque où il a mené des combats minoritaires à travers les mots qui étaient les siens. Et voilà, ça est une forme de modèle, une source d'inspiration. En même temps, je pense être moins bon danseur sur le ring qu'il l'est, et je pense que mon direct est un peu moins fracassant que ne l'était le sien.
Vous êtes plus rugby que boxe. Hein.
Voilà, je suis pas mal en plaquage. Ouais. Bon. Et en cadrage débordement.
Très bien. Merci Benoît Hamon d'être venu ce matin au micro de France Inter. Mercredi, ce sera le tour de votre concurrent, adversaire, comment doit-on dire, Manuel Valls, challenger.
Rival.
Rival.
Concurrent, je sais pas.
Rival et concurrent. Merci à vous Benoît Hamon.